Élection municipale 2014, ville de Die, tous les candidats. Leur programme, leur vision pour l'avenir de Die et du Diois. Un cycle d'émissions spéciales sur RDIWA, 107.5 FM et internet www.rdwa.fr.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter RDIWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Dans le cadre des entretiens que nous vous proposons avec Yves, bonjour.
Bonjour.
Concernant les élections municipales de Die 2014, nous recevons aujourd'hui deux représentants de la liste Une gauche citoyenne pour Die. Ghislaine Ribard, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Et Philippe Levenberg, bonjour.
Bonjour à tous.
Allez, on fait une petite présentation avec Yves, puisque c'est comme ça qu'on commence.
Voilà, donc une présentation un petit peu courte, due peut-être à une jeunesse du candidat aussi. Vous êtes né en 1972. Alors par contre, je ne sais pas où exactement, je n'ai pas pu trouver le lieu de naissance, mais ce n'était peut-être pas important. Et vous
caché.
Résidez dans le Diois depuis quand à peu près ?
1994, donc, 20 ans.
Une vingtaine d'années. Ça va être un petit peu rapide. Conseiller municipal de la mairie de Die en 2008.
2005.
2005 même. Donc, qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs 2005-2008, pourquoi seulement 3 ans?
Eh bien, parce que j'ai été candidat en 2002 sur la liste de Isabelle Bizoire et Martial Jouvenne, qui étaient déjà une liste d'union à l'époque. J'étais en 26e position. Et au fil des démissions des uns et des autres, je suis rentré au conseil municipal en octobre 2005.
Voilà. Ensuite, conseiller général de Die depuis 2011.
Oui.
Sous l'égide du Front de Gauche, je crois, non ?
Parti communiste.
Parti communiste.
Soutenu par le Parti de Gauche, le Front de Gauche, mais c'était l'étiquette Parti communiste.
Et après, donc, vous avez la fonction donc, de ce conseiller général de déléguer à la filière bois.
C'est ça.
Voilà. Et ça consiste en quoi alors ?
Oula, la filière bois, c'est compliqué. Ça consiste à faire avant tout du lien entre tous les acteurs de la filière bois, que je ne pourrais pas citer ici, ils sont trop nombreux, mais en gros, il y a les acteurs de la forêt publique et privée, de la forêt d'une façon générale, les acteurs de l'interprofession du bois, c'est-à-dire tous les métiers du bois. Voilà. Et tous ces acteurs ne parlaient pas beaucoup ensemble. Mon objectif à moi, c'était de les faire parler ensemble et de faire émerger des projets pour transformer plus de bois localement et gérer nos forêts plus durablement. Voilà.
Là, je vois que vous avez eu aussi, vous avez pratiqué l'animation dans les pratiques culturelles et sociales.
Ouais.
C'était en quelle période ça ? Parce que je n'ai pas vraiment trouvé beaucoup de
1995 jusqu'à il y a 3-4 ans. Et j'ai encore animé cet été, enfin tous les étés, là, des ateliers d'échanges internationaux autour du théâtre et du cirque en Allemagne avec des Biélorusses, des Allemands, des Français. Voilà, mon métier, c'était animateur culturel pour la jeunesse et l'éducation populaire. Donc, c'est aussi pour tous les publics. Théâtre, littérature, cinéma, débat de société, voilà.
Pour faire l'éventail de tous les publics, et on a peut-être oublié une des casquettes qui est au conseil général concernant les personnes âgées.
Oui, je suis président du CLIC, mais alors si je dis toutes les délégations qu'on a en tant que conseiller général,
mais
on perd beaucoup de temps.
Elle est importante quand même. Hein.
Ah, celle-là est très importante parce que il y a une très grande dynamique dans le Diois, il y a beaucoup d'associations, beaucoup d'acteurs, des jeunes, des personnes âgées, des aînés, enfin on dit des aînés maintenant, et c'est passionnant. Voilà, vous avez fait une émission dessus, d'ailleurs je crois que j'invite les gens à aller écouter cette émission.
C'est bien, il fait notre travail. Tu avais terminé, Yves ?
Eh bien, je ne sais pas si je peux m'arrêter sur Ghislaine Ribard, puisque
oui, évidemment,
je viens de la découvrir comme toi. Donc, vous êtes colistière de la liste de Une gauche citoyenne pour Die,
oui.
Et vous êtes représentante du Parti socialiste, c'est ça ?
C'est cela, oui.
Voilà. Et donc,
est-ce qu'on pourrait avoir une petite présentation ?
Oui.
Alors, une présentation. C'est-à-dire que bon, moi-même, je suis de Die, avec des racines bien ancrées, avec mes grands-parents, etc. Sinon, je suis partie de Die à une époque entre 20 et 35 ans, me frotter un peu ailleurs, à Montpellier, une dizaine d'années à Paris. Ma formation de base est l'économie sociale et solidaire. Et voilà, je suis à Die où j'ai créé une maison de retraite pour personnes âgées, évidemment, à Marignac, en Diwa. Et en 2008, donc, j'ai été élue sur la liste d'Isabelle Bizoire. Aujourd'hui, j'ai une expérience de conseillère municipale, notamment avec Philippe Levenberg, où on a pu voir tous nos points convergents pour se dire on va partir ensemble, ça suffit les conflits de personnes, on va essayer de faire quelque chose pour gagner la mairie à Die.
J'aimerais qu'on enchaîne là-dessus justement, l'occasion que vous fassiez peut-être un petit bilan de vos conseils municipaux depuis 2008. Vous vous êtes retrouvés tous les deux, enfin en tout cas vos deux partis, dans ce qu'on a appelé l'opposition. Alors, vous avez eu un rôle compliqué et pas souvent entendu peut-être, mais à la hauteur du nombre que vous étiez à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça et peut-être faire un petit bilan aussi de cette ancienne municipalité ?
Eh bien, je vais commencer. Moi, je pense que dans le groupe d'opposition, c'est pas forcément plus dur que d'être dans le groupe de majoritaire, je pense. C'est même souvent peut-être plus facile, puisque c'est pas nous qui portons les projets, mais par contre, c'est peut-être moins attrayant, on va dire. Je pense que le groupe, on a essayé de travailler ensemble pour être une force de proposition et pas qu'une force d'opposition stérile à tous les projets, puisqu'on a perdu les élections. Il faut l'acter. Et puis après, en fonction des projets qui sortent, je pense au projet de place, par exemple, où la première mouture qu'on a vue ne nous convenait pas. Il y avait des trottoirs, il y avait plein de choses, il y avait des fontaines qui faisaient des trous dans le sol et tout ça. Voilà, on a fait des propositions, on a essayé de porter la voix des personnes à mobilité réduite, des handicapés, des forains. Et certaines propositions ont été entendues, d'autres non. Voilà, bon ben, comme on n'a pas la majorité, quand ça passe au vote, on vote contre. Mais on sait qu'on a réussi à faire avancer un peu le débat. Je crois que c'est ça. Dans une commune comme Die, le groupe d'opposition, il doit être force de proposition, relais de la population.
Et alors, comment ça vous a rassemblé, justement, Parti communiste, on l'a dit un peu, Parti socialiste, alors qu'il semble qu'historiquement, la perte des élections de 2008 soit due quand même à un petit clash entre les deux. Me trompe-je, Ghislaine?
Je ne sais pas, mais là, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est sûr qu'on a autant besoin les uns des autres. Donc voilà, on appelle au rassemblement pour essayer d'avoir une victoire en 2014. Donc de toute façon, on a énormément de points communs, notamment sur les projets d'intérêt communaux. Donc c'est là-dessus qu'on travaille pour la commune de Die. Et là-dessus, on a construit un programme où PS, PC, citoyens très largement rassemblés, nous sommes d'accord sur comment nous voyons la ville, quelle vision on a pour Die sur des projets structurants. On a envie de les faire. Quoi. Dans l'opposition, moi, c'est vrai que j'ai été très frustrée d'être là sans être vraiment en charge de dossier. Donc la différence, évidemment, quand on est à la majorité, dans la majorité, c'est de pouvoir être actif vraiment et là-dessus on a des choses intéressantes à proposer pour Die communément.
Et puis je voudrais rajouter quelque chose sur le clash. Moi, je suis rentré en 2005, il y avait eu clash, c'est peut-être un mot un petit peu fort, mais je pense que on a changé de génération. Ghislaine n'était pas là, moi j'étais pas là, donc c'est un peu dur d'en parler, mais il y avait des questions sur notamment le budget assainissement où il y a eu un fort désaccord et où il y a un adjoint, puisque c'était une liste d'union en 2002. Il y avait une très très bonne collaboration. Il y a eu un désaccord sur un dossier important, il y avait beaucoup d'argent. Et puis il y a eu un désaccord sur la déviation. Aujourd'hui, avec Ghislaine, ces dossiers-là, on n'en parle plus. Enfin, la déviation, on estime qu'après 60 ans de débat, elle n'a pas eu lieu. Les terrains ont été revendus, le département, c'est plus une priorité. Voilà, du coup, ça ne fait pas un objet de polémique entre nous.
Donc il n'y a plus de polémique, c'est très bien. Et je voudrais juste terminer peut-être avec la polémique. En Union PS, PC, citoyen au sens très large du terme, il manque encore une partie de la gauche, si tant est que vous pensiez qu'elle soit à gauche, les Verts. Hein. Quid de cette non-association, des non-union de toutes les gauches de Die ?
Bah écoutez, on les a contactés il y a déjà plus d'un an. Non pas forcément pour parler d'une association, mais pour parler tout simplement de ce qui se passait à Die, du contexte municipal. On a eu une réponse par le journal le 30 novembre 2012. Une fin de non-recevoir qui annonçait qu'il faisait une liste. Moi, je les ai relancés, j'aurais proposé 4 dates de rencontre, il n'y a pas eu. On a fait un appel dans la presse dernièrement à Europe Écologie Les Verts, puisqu'il nous semble que sur le contenu, on doit pouvoir s'entendre. Bon voilà, après c'est le jeu des élections, les électeurs choisiront, c'est la démocratie.
Mais est-ce que vous pensez qu'il y a des vraies oppositions dans les programmes en tout cas, ou entre ces partis historiquement ?
Historiquement non, parce que de toute façon, c'est vrai qu'aussi l'écologie n'appartient pas qu'à un seul parti. L'écologie, tous les partis doivent s'en préoccuper. Aujourd'hui c'est quand même une des préoccupations numéro un. Et évidemment, politiquement aussi, quoi.
Yves ?
Alors, je vais raccourcir. Hein. Moi, je vais passer directement à la ville. Donc, quels sont les projets concrets que vous envisagez pour la ville de Die et le Diewa ?
Alors,
je te laisse l'honneur.
Je te laisse l'honneur. On a beaucoup de projets. Alors, moi, je voudrais dire qu'avant de parler des projets, nous, ce qu'on propose, c'est une méthode de travail. C'est une idée qui n'est pas nouvelle, mais on l'a vu pour le projet Chanqueras, par exemple, où il y a une enquête publique. Il y a deux personnes qui ont répondu sur un projet à plusieurs millions d'euros, qui engage 10 sur plusieurs années. Il nous semble que le mode d'élection, où après on dit, tiens, le maire et son équipe, ils s'occupent de tout et ils font tout, n'est plus suffisant aujourd'hui. Donc on propose, nous, de mettre en place, sur la méthode, des commissions extra-municipales où on associe les élus, les citoyens, les professionnels et les institutions, organisations, je pense le Massif des Alpes, Parc du Vercors, le syndicat, selon les projets, les différents syndicats, que ce soit l'eau, l'électricité, voilà, pour discuter ensemble des projets, les élaborer ensemble et mettre vraiment les citoyens au cœur du fonctionnement municipal.
Concrètement, comment ?
Alors,
c'est-à-dire, non mais vraiment, ça veut dire que vous allez faire
Dans le code général des collectivités territoriales, il existe un outil qui peut être utilisé, c'est la commission extra-municipale. Donc, on invite les gens. Alors, il y a des modes de désignation. On va prendre un exemple très concret. On prend le square Saint-Pierre devant le collège-lycée. On a beaucoup d'enjeux autour de ce square, puisque c'est l'entrée-sortie du lycée-collège. C'est un lieu de passage pour aller dans les commerces ou pour arriver au centre-ville. Il y a un monument aux morts au milieu, donc il y a beaucoup de commémorations qui se font à cet endroit-là. Il y a des riverains, il y a l'accès à l'hôpital, il y a l'arrêt des bus. Donc nous, ce qu'on se dit, on prend des représentants de chaque structure, de tous les enjeux. Pour les riverains, on peut les tirer au sort pour éviter que ce soit toujours les mêmes qui viennent parler. Pour les collégiens, il faudra qu'on discute avec eux quel mode de désignation on peut trouver, mais il faut qu'ils soient quand même suffisamment représentés, je pense, parce qu'ils sont quand même en grand nombre. Et puis après, on leur propose, notre idée, c'est de refaire cette place. Comment on fait ? Et on met les enjeux sur la table. Moi, ça m'intéresse que les collégiens lycéens discutent avec les associations du souvenir pour voir, par exemple, avec cette histoire de monument aux morts, quels sont les problèmes, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'il y ait une proposition partagée collectivement. Voilà, ça, c'est très concret. Pour finir sur la méthode, je pense que dit aujourd'hui, on ne peut pas vivre isolé du monde. Les villes ont besoin de la campagne a besoin des villes, on est relié par Internet, on est relié par les routes, on est au milieu du monde. Et on n'a pas vu assez, sous ce mandat, la ville de Die aller siéger au parc du Vercors, au comité de massif des Alpes, aller interpeller le département, la région, les partenaires.
Plus proche de nous, même à la communauté de communes.
À la communauté de communes, ils ont siégé quand même. Mais voilà, avoir des relations de confiance avec ses partenaires, ça veut dire aller les voir souvent, travailler avec eux, les aider dans leurs propres projets et avoir un retour sur nos propres projets. Voilà, ça c'est une méthode de travail, je pense, où il faut quand même être assez dynamique et curieux. Voilà, donc ça c'est pour, je dirais, la méthode. Sur les projets, peut-être que...
Alors, les projets, c'est vrai que lors d'un mandat, on a 6 ans pour faire quelque chose. On sait tous que des projets, on ne peut pas en faire 36, il y a des limites financièrement. On va opter pour 2 projets structurants pendant le mandat. Pour nous, ce qu'il en ressort des discussions, c'est de faire vraiment revivre le centre-ville, que ce soit plus dynamique. Et donc, on pense faire une maison des associations avec la halte garderie attenante, là où c'est aujourd'hui.
Là où nous sommes.
Là où nous sommes. Donc ça, c'est un gros projet structurant. Ensuite, un autre projet structurant qui va être plus lié aux déplacements doux notamment, ou aux déplacements en navette, essayer de limiter les moyens de transport individuels pour qu'il y ait une vie plus intéressante au centre-ville, avec des pistes cyclables où les piétons et les cyclistes aient toute leur place. Et donc, dans cet esprit, vu qu'il y a eu beaucoup de parkings qui ont été faits, énormément depuis une quinzaine d'années, disons, il y a peut-être le parc automobile ici qui comme partout, augmente. Mais c'est une façon de penser un projet structurant avec des déplacements doux, de diminuer le nombre de voitures et voilà, d'avoir une vie plus intéressante à 10 même. Donc la maison des associations, ce projet de déplacement, c'est vrai qu'on va travailler aussi sur l'école primaire et maternelle. Il faut agrandir l'école, notamment la cantine, revoir un peu tous les abords, les aménagements de ce quartier aussi. Voilà, après, il y a toute une gestion. Là, c'est vrai que moi, j'étais conseillère municipale pour la première fois, mais j'ai quand même appris qu'il y a bien des dossiers qu'on doit continuer en tant que gestionnaire d'une ville, comme l'eau, l'assainissement, tous ces travaux qui sont du devoir d'une commune d'assumer et pour lesquels d'ailleurs on a toujours voté pour. La différence viendra sur les projets structurants entre la droite et la gauche, si on peut dire. On peut avoir des projets structurants différents parce qu'on a un peu des valeurs différentes.
Ces projets structurants vont coûter de l'argent.
Évidemment.
Et donc la question découle, ouais. D'où vient-elle?
Tu veux reprendre?
D'où va venir tout cet argent pour ces quelques projets? Alors, je voudrais juste, parce que ça, c'est une question de nos auditeurs, ils voulaient qu'on la pose. Que va devenir le bâtiment Joseph Reynaud? Donc, vous y avez répondu. Nous, on habite dedans, on voit très bien dans quel état il est. Ça va coûter très cher. Donc, voilà, par exemple, comment est-ce qu'on finance la réhabilitation de cet immense et beau bâtiment?
Alors, la réponse, elle est en partie dans ce que j'ai dit tout à l'heure, de même que pour les déplacements doux, on sait qu'on peut mettre autour de la table, par exemple, l'ensemble des services publics, des collectivités qui sont des services publics. Donc la commune, la communauté de communes, le département, la région, puisqu'il y en a un lycée-collège, et l'État. On a quand même 300 salariés à l'hôpital, on a des gens qui travaillent à la préfecture, à l'hôtel des impôts. Voilà. Sur les déplacements, on sait qu'on doit pouvoir partager l'enveloppe, puisqu'on a tous un objectif commun, c'est de diminuer la consommation des énergies carbonées et développer le déplacement doux. C'est une bonne chose. Sur ce bâtiment, on fera la même chose. Il y a plusieurs partenaires potentiels autour de la table. Il y en a déjà au moins 2, c'est la commune et la communauté de communes, mais il y a aussi la CAF. Le département, sur un projet structurant, finance aussi une partie. Avec la région, il faut qu'on voit ce qu'on peut faire sur l'aspect isolation et efficacité énergétique. Sur la filière bois, puisqu'on peut mettre intégrer un peu de bois dans la construction, il y a le massif des Alpes, le parc du Vercors. Enfin voilà, on a un tas de partenaires. Après, pour venir sur le budget à proprement parler, alors on a un expert qui est Piero Gotrono. Donc lui, il est très bon pour parler des chiffres, pas pour les expliquer. Moi, je suis un peu meilleur pour les expliquer, mais je me perds dans les chiffres. Mais c'est pas grave. Pour expliquer un budget communal, on a des recettes et des dépenses. Les recettes sont les impôts, les taxes et les dotations globales de fonctionnement de l'État. Ça, c'est sur budget principal. quand on a dépensé tout l'argent pour le fonctionnement, les salaires et les petits travaux, il reste une enveloppe qui est l'épargne brute qui sert à financer les investissements. C'est environ, ça permet de dégager environ 2 millions d'euros par an avec l'enveloppe brute plus les emprunts qu'on peut faire avec. Et à côté de ça, on va chercher des subventions. Nous, on a calculé que sur un mandat, on pouvait faire 15 millions d'euros d'investissement. Donc, sur une maison des associations comme celle-ci, on sait qu'il y a déjà eu un devis à 5 millions d'euros. Peut-être que ça sera 4, peut-être que ça sera 5 ou 6. Les déplacements, on a estimé à 1,5 million. Et puis après, il y a des projets d'isolation des bâtiments, de réseaux de chaleur, les écoles. On a tout aligné. On tombe sur 15 millions raisonnablement en allant chercher 36% de subvention. Aujourd'hui, on est à 29%. Est-ce que ça répond à la question ?
Bah, un peu, hein. On est abreuvé de chiffres.
Là, oui.
J'ai pas trop les chiffres, mais...
Peut-être qu'on peut dire le budget global, quoi, sur un an. Disons que la mairie a un budget de fonctionnement d'environ 4,9 millions, 5 millions d'euros et un budget d'investissement en tout de 3,5 millions.
2 millions.
2 millions.
2 à 3 millions selon les années, quoi.
Oui.
Est-ce qu'on pourrait faire ce parallèle maintenant, parce que et ça intéresse aussi nos auditeurs, Di est au centre donc de la communauté de communes qui a été souvent répétée, quand tout à l'heure j'ai peut-être été un peu rapide en disant que Di ne siégeait pas la communauté de communes, elle y siège certes, par contre son influence a été moindre, là où on s'attendrait à ce qu'elle soit porteuse d'un projet général pour l'ensemble du Diwa. En même temps, je rappelle que la réforme territoriale va profondément changer le rôle des maires et des communes au sein de cette communauté de communes, puisqu'ils seront les seuls représentants et non plus les conseillers municipaux auparavant. Voilà, qu'est-ce que vous pensez pour l'ensemble du Diwa ? Là, on s'écarte un peu de la ville de Di. Qu'est-ce qui va être proposé ? Ghislaine, peut-être ? Non,
Philippe ? Pour dire, il n'y a pas que les maires. Ça, c'est dans les petites communes de moins de 100 habitants, je crois, où il n'y aura que le maire qui siégera à la communauté de communes. Pour les autres communes, il y aura le maire et des conseillers municipaux. À Di, il y aura quand même 12 représentants à la communauté de communes, alors qu'aujourd'hui, il y en a 5. Donc, c'est vrai que la ville de Di prend un peu de poids.
C'est la grande nouveauté, d'autant que il y a quand même un changement sur les modes de scrutin, c'est-à-dire que on va élire des conseillers municipaux, mais sur le même bulletin, il y aura à côté les conseillers communautaires. Donc, quand les électeurs vont voir la liste des conseillers municipaux, ils sauront qui va à la communauté de communes. Et ça, c'est évidemment très intéressant parce que c'est vrai que la communauté de communes a notamment en charge tout ce qui est plus économique. Il y a voilà, des outils pour aider à l'emploi, enfin, développement des entreprises. Voilà, c'est plus lié à la communauté de communes. Et c'est bien que la commune de Di travaille vraiment en lien avec la communauté de communes pour tous ces axes de développement.
Oui, je veux dire que la relation qu'on peut avoir avec la communauté de communes doit être vraiment une relation de partenariat et de collaboration, parce que Di représente quasiment la moitié des habitants de la communauté de communes. C'est un bourg-centre, mais on ne peut pas faire sans 52 maires, enfin 51 sans la ville de Di, et on peut pas... Enfin, les projets sont toujours partagés par les 52 maires. Je ne crois pas qu'il y ait eu de projet qui n'ait été pas voté à l'unanimité. Les projets qui sont en cours, c'est la réforme des ordures ménagères. On l'accompagnera puisque tout le monde l'a voté à l'unanimité. Il y a la fibre optique chez l'habitant. C'est un énorme projet pour le mandat à venir et peut-être le mandat d'après encore. Et après, la communauté de communes, sur certains services, elle a des moyens, pour l'instant, qui sont utilisés que par elle. La communauté de communes en a d'autres. Est-ce qu'on peut travailler plus ensemble ? Moi, je pense par exemple sur les personnes âgées, le handicap. On peut développer bien plus de projets ensemble parce que le travail qui se fait au sein de la communauté de communes, notamment au CLIC, avec le département communauté de communes, peut être utile à Di comme à l'ensemble des villages. Et il faudrait que l'ensemble des communes vraiment s'emparent de ces outils-là. Sur les questions de l'emploi et de la jeunesse, des déplacements, on doit pouvoir renforcer le travail.
Est-ce qu'il y aura une patte une gauche citoyenne pour dire, est-ce que on va sentir quelque chose de particulier, je veux dire, même au fin fond de la communauté de communes?
Bon, non, on espère.
Voilà, mais
pas
alors.
Vous dire avant.
Bah oui, mais par contre, on pourrait décrire qu'est-ce qui va être très fort. Je vais pas donner des exemples justement, mais qu'est-ce qui va être structurant que vous allez proposer et qui devrait influencer le reste
du Diwa.
Moi, je pense que si on arrive à maintenir sur dit des services publics qui sont primordiaux et des services publics ou des entreprises privées, je pense à la librairie par exemple. Il y a une librairie à Die, elle est exceptionnelle. Je crois que c'est un pôle d'attractivité pour beaucoup de Diwa. Le cinéma, le théâtre, et puis l'ensemble des services publics, évidemment. Donc la ville de Die, elle doit porter ça, parce que c'est quelque chose qu'elle offre aux habitants de Die, mais à l'ensemble du Diwa. Et sur les autres projets, je dirais que le maire de Die, par exemple, je sais qu'il siège, enfin il pourrait siéger au comité de Massif des Alpes. C'est une instance que personne ne connaît, mais ça.
Voilà, ça fait trois fois qu'elle est citée. Elle est, ouais. On la décrit.
Oui, je la décris. Alors, le comité de Massif des Alpes, c'est un comité qui rassemble 9 départements qui sont tous alpins. Donc la Drôme a la moitié du territoire qui est couvert par ce massif. Le maire de Die, je ne l'ai jamais vu. Moi, j'y siège en tant que conseiller général. Il va se distribuer 450 millions d'euros sur le futur programme, les futurs programmes européens entre 2014 et 2020. Sur le calendrier précédent, il y a peut-être 1 million d'euros qui sont tombés sur la Drôme. Je pense que si on a l'occasion d'avoir le maire de Die qui siège dans une instance comme celle-là, qui peut porter des dossiers pour Die et pour l'intercommunalité, on a un vrai atout. Donc... après, les dossiers sont à mettre, enfin, à discuter collectivement, mais la fibre optique, par exemple, fait partie des choses qu'on peut aller porter au comité de Massif des Alpes, comme on peut le porter à la région, à l'Europe. Voilà, ensemble, on est plus fort.
Yves.
Donc, la question pour les projets d'urbanisation, c'est vrai que c'était une question que j'avais à poser par la suite, s'il y avait une concertation avec la population d'Ivoise, aussi pour marquer peut-être une identité, si on peut dire, liée à l'architecture et puis à un certain mode de vie qu'on peut y trouver ici.
Bah, oui, c'est-à-dire que justement, notre méthode de travail va répondre à ce problème, c'est-à-dire que les citoyens pourront s'exprimer avec toutes les voies représentées, disons, liées au projet spécifique. Donc, c'est vrai qu'on a envie que plus que la majorité de la population adhère au projet structurant qu'on veut faire et qui corresponde aux citoyens qui vivent à Die.
Après, il y a deux étapes. Il y a les élections, où nous, on dit les projets structurants. Ça va être la réhabilitation du centre-ville, la maison des associations ici. Tout à l'heure, on a oublié la réhabilitation du logement en centre-ville parce qu'une ville sans habitants n'est pas une ville. C'est la city ou des choses comme ça. Les déplacements doux, il y aura lotissement de Champ-Queyras, peut-être d'autres projets. Donc, les Diwa, ils choisissent hein, s'ils veulent ce projet ou pas. Mais après, pour comment on met en œuvre ce projet ? C'est là qu'on a envie vraiment que les citoyens ils soient investis, engagés dès le départ et qu'on ne leur présente pas une maquette Photoshop toute faite avec un groupe d'experts qui présentent les raisons et les bonnes raisons de ce projet. Voilà, c'est mieux que ce soit les citoyens qui le fassent avant et à la limite on fait venir l'urbaniste, l'architecte à la fin ou au milieu pour expliquer c'est quoi le métier d'architecte, c'est quoi le métier d'urbaniste, en quoi ça consiste, quelle est la résistance de tel matériau, tel... Voilà, amener de l'information technique, mais pouvoir faire participer dès le départ, quoi.
Oui, c'est une question...
Pour aller juste plus loin dans ce que tu disais, Yves, c'est la question qui est posée, c'est est-ce que ce centre-ville tel qu'il est aujourd'hui, avec qui dégage aussi une certaine quiétude, une tranquillité peut-être mortifère, mais enfin, voilà, et ce côté un petit peu aseptisé, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer aussi à Die, comment est-ce que vous voyez la dynamisation de ce centre-ville qui, voilà. Et en même temps, est-ce que dynamiser le centre-ville, vous n'allez pas mettre d'un coup un coup de pied dans cette petite vie tranquille voilà, on a entendu beaucoup de plaintes concernant les gens qui seraient en errance. Ça relance la question des caméras de surveillance, ce genre de choses. Voilà, votre point de vue là-dessus. Quand on dit dynamiser le centre-ville, alors on remet de la culture partout, ça va ennuyer les gens. Hein.
Remettre aussi une colonne Maurice sur la place, par exemple, qui manque, je trouve.
On a des propositions sur l'affichage public qui est obligatoire, que ce soit pour annoncer les manifestations ou pour les opinions politiques qui y sont
inexistantes. Ah oui, parce qu'il n'y a plus d'affichage public, hein, quasi. Hein,
devant le collège et devant la salle polyvalente. Voilà, mais ça, c'est un manque.
Alors, concernant cette dynamisation et la crainte que pourraient avoir des gens que ça devienne moins tranquille, la ville de Die.
Oh non, ça ne peut pas être moins tranquille, ça peut être que plus vivant, en fait. Hein. Donc, disons que le projet d'une maison des associations est de conserver la halte garderie en centre-ville, ça veut dire qu'il y aura des mamans, des enfants, il peut y avoir dans la maison des associations les personnes âgées pour les clubs de personnes âgées, donc ça sera vraiment de l'intergénérationnel, ce qui correspond à la vie quotidienne de tout le monde, quoi. Donc, ça permettra notamment aux commerces de proximité, peut-être, d'être...
revitalisés.
Voilà, d'être plus en activité en ayant du monde au centre-ville plutôt que de faire des parkings.
En fait, les associations existent déjà. Hein. Simplement, on souhaite améliorer peut-être leurs conditions d'existence,
qu'elles
notamment
un logement, quoi.
À travers des locaux qui permettent aussi, tout à l'heure vous parliez d'identité, avoir un local comme celui de Radio Diwa où il y a Trajet Spectacle à côté ou la Halte Garderie, ça reflète une identité quand même. Et c'est important que les gens arrivent ici et se disent tiens, je suis dans une radio, je ne suis pas dans un placard qui s'ouvre et qui se ferme et où on... Voilà, qui...
Oui, et puis c'est réhabiliter aussi les bâtiments qui s'écroulent, hein, il faut dire ce qui est, c'est qu'il faut entretenir le patrimoine communal aussi. Donc on veut que tout soit en interaction avec des logements sociaux au centre-ville et à Champ-Queyras. Là aussi, le dossier sera remis à plat sur Champ-Queyras. Mais tout l'intérêt, c'est qu'il y ait une dynamisation entre le centre-ville et Champ-Queyras. C'est assez compliqué de trouver cet équilibre. Mais c'est une condition pour réussir quoi, aussi.
La vie associative, comme c'est ce qui fait vivre l'été, dit beaucoup l'été, mais c'est ce qui fait vivre les habitants toute l'année. C'est ce qui rend cette ville aussi attractive. On entend souvent à l'extérieur, mais à Die, vous avez un nombre d'associations, de manifestations. C'est quand même ce qui rend la ville attractive. Je ne crois pas que les gens qui travaillent dans les associations soient des gens dangereux qu'il faudrait éloigner du centre-ville. Il ne me semble pas.
Et par contre, ils font du bruit avec leurs concerts. Ils ont des idées farfelues. Et puis, surtout, ils font venir un public pas très fréquentable, des fois.
Ouais, mais c'est quand même rare.
Les associations, il y a beaucoup d'associations sportives et culturelles. Il y a justement à Die, c'est ce qui est intéressant, c'est vraiment ce mélange social qui n'existe plus dans les grandes villes. Souvent, c'est des quartiers. À Die, on a la chance de pouvoir vraiment se mélanger socialement et c'est tout l'intérêt.
Pour vous, il vous semble qu'il y a un manque là-dessus ou que quelque chose est brisé ou se brise ou au contraire qu'il faudrait juste accompagner et dynamiser un peu ?
Non, il faut juste accompagner parce que ça existe et c'est Die est même remarquable par rapport au nombre d'associations qu'il existe sur Die. Donc il faut le conserver, il faut le redynamiser et il faut donner envie à des gens de venir s'installer, travailler à Die, créer des entreprises, même si c'est des toutes petites et moyennes entreprises. Et tout ça, le tissu social et les services publics vont contribuer à l'installation, au moins maintenir la population, parce qu'on voit bien que Die a une population très régulière. Non, il y a peut-être... la population qui va sur les villages alentours, mais je veux dire, globalement, la population de Die reste la même depuis des décennies, voire des siècles.
Alors, est-ce que ça passe par augmenter le nombre d'habitants et ça nous permet de parler un petit peu de votre politique de logement ?
Sur le logement, je ne sais pas si l'objectif c'est d'augmenter le nombre d'habitants, ce serait bien qu'il y en ait peut-être un petit peu plus, mais c'est au moins que les habitants qui vivent à Die aujourd'hui soient logés dans des conditions correctes. On sait qu'on est en manque de logement social. Si on peut fabriquer du logement avec des hautes capacités énergétiques, donc avec des faibles charges, c'est encore mieux. Donc c'est l'objectif sur Champ-Queyras notamment. C'est l'objectif de réhabiliter le centre-ville, puisqu'on sait que les gens ont plus de charges que de loyers sur le centre-ville en moyenne, parce qu'on a beaucoup de logements insalubres. Donc déjà, si on peut améliorer ça, si ça permet
mais comment...
d'attirer d'autres habitants après, tant mieux.
La mairie va investir dans le privé
Non, mais il existe des dispositifs pour aider les privés à réhabiliter leur logement. Alors ça les engage sur 10 ans à louer avec des taux conventionnés. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait une politique offensive là-dessus. On ne peut pas obliger quelqu'un à le faire. Hein. Mais par contre, il y a eu des opérations comme ça sous le mandat d'Isabelle Bizoire qui ont bien fonctionné. Aujourd'hui, c'est un peu en berne parce que ce n'est pas une priorité politique. La priorité, c'est de faire Champ-Queyras. Nous, on dit, OK, il faut faire Champ-Queyras. Regardons quand même à ce que ça ne vide pas le centre-ville. Et parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, un centre-ville sans habitants, c'est pas un centre-ville, quoi. Il faut que le soir, quand on se promène, on croise des gens qui rentrent chez eux, qui partent, qui vont, qui viennent, qui vivent.
Ça, c'est une question qui nous est posée. Les services se trouvent de plus en plus à la périphérie de la ville. Les gros commerces, grandes surfaces, etc., pareil. Les zones artisanales également. Champ-Queyras, donc justement, viendrait compléter le lot. On peut sortir aussi les habitants. Alors, c'est quoi le projet sur Champ-Queyras ? Quel était-il avant et quel est-il selon vous maintenant ? Quel sera-t-il ?
Aujourd'hui, le projet qui est en cours, c'est une construction d'environ 270 logements, ce qui paraît quand même énorme quand on dit ça comme ça. C'était prévu sur 8 ans, puis on nous a dit sur 10, puis maintenant on nous dit sur 15. Donc,
C'est quoi un grand immeuble ?
Non, c'est plusieurs petits immeubles. C'est destiné à des promoteurs.
Du logement social ou des promoteurs.
Voilà, il va y avoir une mixité justement dans les logements à Champ-Queyras. Et le souci, c'est de bien mesurer pendant tout ce temps des travaux aussi ce qu'on doit faire en premier. Mais enfin bon, nous, on a l'intention quand même de remettre un peu à plat ce projet qui n'est qu'un projet à l'heure d'aujourd'hui.
Est-ce ce que l'on avait appelé l'éco-quartier, le futur éco-quartier ?
Ça a commencé par un éco-quartier et aujourd'hui c'est une zone d'aménagement concertée. Et malheureusement, je crois que la dimension écologique, elle a un peu disparu. Donner un exemple très concret, hein, on a au milieu de ce quartier une avenue toute droite qui va sur un rond-point. Il n'y a pas de place pour une piste cyclable. Alors il y a bien un trottoir, on nous dit c'est ça la piste cyclable, mais c'est pas la même chose. Il y a deux voies, enfin, au lieu de mettre une voirie à la limite au milieu, il y a deux voiries, donc quatre trottoirs, donc beaucoup plus d'entretien, beaucoup d'espaces verts qui servent à rien. Nous, on pense qu'on doit pouvoir quand même revoir cet aménagement pour répondre plus aux questions écologiques, notamment celles du déplacement doux, mais aussi du cadre de vie, laisser de la place à la nature, et puis réduire les coûts, parce que finalement, on arrive à un projet où le coût d'aménagement est trop important pour le DIY.
Et ce coût est dû par contre à un cahier des charges des constructions et qui sont habilités justement ? Est-ce que localement il y a des artisans ou des entreprises qui peuvent répondre à ce cahier des charges qui devient apparemment de plus en plus strict, voire inabordable pour les petites entreprises ?
Alors ça dépend. Il y a un cahier des charges de la commune pour l'ensemble de l'aménagement qui va vendre ensuite des parcelles. Sur ces parcelles, elle autorise un promoteur ou une entreprise, c'est plutôt des promoteurs, à construire tel type de bâtiment, 20 logements, 10 logements, 2 logements, voilà, selon un cahier des charges. Après, c'est le promoteur qui travaille avec les entreprises avec qui il veut bien travailler. L'objectif, alors là, ce sera...
Est-ce que vous allez influer sur ça, par exemple ? On peut quand même mettre un autre cahier des charges.
On peut essayer de réviser le cahier des charges pour voir, effectivement, comment on peut faire travailler les entreprises locales.
Est-ce que c'est une de vos propositions, tu vois ? Vous n'y aviez pas pensé.
Si, on y a pensé, mais c'est un tel boulot. Quand on est dedans, qu'on voit comment ça se passe, en fait, il faut être élu quoi, pour pouvoir commencer ce travail, revoir un peu à plat.
Parce que pour terminer sur Champ-Queyras...
Moi, j'ai travaillé sur cette question-là, sur la filière bois notamment, parce qu'il y a toujours un peu de bois dans la construction. Et 80% du bois qui est utilisé dans la construction en France vient d'Allemagne, de Suède, de Norvège, voire de Sibérie, 8500 km. Donc on a travaillé sur des certifications de bois particuliers, on a travaillé avec des entreprises, avec des architectes, des urbanistes. Là maintenant, on essaye de sensibiliser l'ensemble des communes de façon à ce que dès la première rédaction d'appel d'un cahier des charges pour un appel
d'offres,
on rédige tout de suite. Alors, c'est très encadré, les appels d'offres. On ne peut pas dire « je veux travailler avec une entreprise qui habite à 10 km maximum ». C'est interdit. Donc, il faut trouver d'autres biais. Donc, ces biais, ils existent notamment dans la filière bois, mais on ne fera pas toutes les maisons en bois, parce que ça ne correspond pas au cadre ici. Mais il peut y avoir de la structure, il peut y avoir de l'ossature, il peut y avoir des choses. Et après, quand j'en parlais avec une personne qui rédige des cahiers des charges, elle me dit « c'est... une nouvelle façon de faire, ça peut nous donner des idées sur le reste. C'est-à-dire qu'il faut aussi bien connaître les entreprises locales pour savoir comment on rédige ces cahiers des charges. Il faut bien sûr que les entreprises soient compétentes et qu'elles fassent du bon boulot. Hein.
Bien sûr.
C'est le cas hein, quand même, non ?
Mais il y en a beaucoup d'entreprises dans le coin. Et,
on peut citer quand même Drôme DH, Drôme Aménagement Habitat, qui est un bailleur social et qui est prêt quand même à faire quelques constructions.
Oui. Et à essayer de travailler avec les entreprises locales quand elles veulent bien répondre aussi. Mais moi, j'ai aucun doute sur la volonté des entreprises locales de travailler ici, notamment je ne vais pas les citer parce que ça ne se fait pas, mais les entreprises du bâtiment public, elles ont tout intérêt à travailler ici pour le confort de leurs salariés, pour les économies de transport et de logement. Pour elles, c'est une bonne chose. Et pour nous, c'est une bonne chose aussi. Les chantiers sont de meilleure qualité.
Yves ?
Oui, alors justement, je reste toujours dans le logement et je voudrais savoir quelle est votre position par rapport à, entre guillemets, les squatteurs qui habiteraient par exemple dans les jardins du Perrier. Voilà, quelle solution envisagez-vous ? Et parce que c'est une réelle difficulté et un réel problème, parce qu'il y a des personnes qui y sont et qui n'ont pas d'autre choix que d'y être.
La question de l'habitat léger, donc.
Oui.
Ben c'est vrai qu'on est dans une société où c'est légiféré tout ça. Il y a un plan local de l'urbanisme. On répond en tant qu'élu, on doit quand même suivre ce qui existe légalement. Maintenant, justement, avoir une politique sociale, ça devrait permettre quand même à ces gens qui sont dans les jardins du Perrier peut-être d'avoir un logement plus adapté et conforme.
C'est une question plus compliquée. C'est la réponse classique. Effectivement, en offrant de bons logements sociaux, plus de logements plus abordables, on réduira peut-être une partie de ces gens-là. Mais il y a aussi un choix, parfois.
Alors ça, c'est autre chose.
Il y a un choix, peut-être parce que l'offre de logement aujourd'hui sur 10 ne correspond pas au choix de vie des personnes qui choisissent d'aller là-bas. Après, en tant qu'élu, on ne peut pas prendre la responsabilité de laisser des gens habiter au jardin du Perrier. C'est une zone naturelle protégée, hein, les Perriers, d'une part. D'autre part, il n'y a pas d'assainissement ni d'eau potable là-bas. Normalement, on n'a pas le droit d'y vivre, ça c'est la règle. Moi, ce qui m'interpelle le plus là-dessus, c'est surtout sur la question de la pollution. Hein.
Oui.
Parce que on a l'impression, quand on vit tout seul dans un petit cabanon, on ne pollue pas, mais malgré tout, tous les jours, on va aux toilettes, on fait la vaisselle et on laisse cette eau sale quelque part. Et la nappe du Perrier, aujourd'hui, n'est pas dans un bon état. Il y a un programme au niveau de la vallée de la Drôme pour protéger l'ensemble des ressources stratégiques d'eau potable qui existent sur le bassin. Elles sont toutes identifiées. Les jardins du Perrier, ça en fait partie. Il y a une nappe dessous, il y a un énorme travail, et ça c'est la communauté européenne et les lois sur l'eau, Grenelle de l'environnement, qui nous demandent de faire ce travail-là. C'est difficile d'expliquer aux gens, écoutez, on va faire ce travail-là à Beaufort-sur-Gervanne, on va sur le Carse de la Gervanne avec des complexités techniques incroyables, et puis a dit non, on le fera pas. Non, et on protégera aussi l'eau pour les générations futures pendant 20 ans, quoi.
D'ailleurs, la loi de l'eau, là, justement, qui parle d'un rehaut du niveau minimum des cours d'eau, sous réserve d'interdiction de prélèvement ou de pompage des rivières. Il est de combien ? Parce que je crois qu'il a été modifié dernièrement. Il est passé de 16 à 24 cm, je crois, si je ne me trompe pas. Et ce qui pourrait aussi mettre en difficulté des initiatives locales, comme des picots centrales, justement, puisque moins de captation d'eau pour justement produire une énergie alternative. Voilà.
Alors là, vous, J'ai présidé ces 6 derniers mois à la commission de gestion du déficit quantitatif et qualitatif de l'eau. Alors, on pourrait en parler, peut-être faire une émission là-dessus, parce que c'est un sujet passionnant.
Volontiers.
C'est le débit réservé. Alors, débit réservé, il est défini par arrêté préfectoral suite à des études sur les volumes prélevables, sur des études qui ont duré plus de 3 ans sur les débits de la rivière Drôme. Donc, je crois que c'est 2,3 ou 2,4 mètres secondes au seuil des puits, donc plus loin que Cré. Ça veut dire que dans cette commission, on a élaboré un plan de gestion de la ressource en eau avec l'ensemble des acteurs utilisateurs de l'eau de la rivière Drôme et de tous ses affluents. Les communes se sont engagées à améliorer le rendement de leur réseau, donc elles ont mis 10 millions sur la table. Les agriculteurs se sont engagés à améliorer aussi leur réseau, à réparer les fuites dans les réseaux d'irrigation, à faire du maillage. Ils mettent 12 millions d'euros sur la table. Les pêcheurs, eux, ont suivi ça et l'ont voté. Les services de l'État ont voté ce projet. Donc c'est un projet très important qui va s'élaborer les 3-4 prochaines années, enfin qui va se réaliser concrètement. Voilà. Et après, sur dit, il va y avoir des enjeux. C'est le canal des fonds d'eau qui alimente les jardins du Perrier, puisqu'on a un seuil là où il y a la prise, on a un seuil à la roche de Romeillet aussi. Et ces seuils, il faut soit les enlever, soit créer des passes à poissons. Donc ça va coûter un peu de sous. Il y a cet enjeu-là. Et ensuite, sur les micro-centrales ou pico-centrales, aujourd'hui, c'est dur d'installer une centrale comme ça sur un cours d'eau parce qu'on rompt la continuité écologique. Par contre, on en a installé une commune de Die, commune de Romeillet, sur la conduite d'eau potable, ce qui fait qu'il n'y a pas de... L'eau est déjà dans les tuyaux, donc il n'y a pas de rupture. Et je pense que ça fonctionne très bien.
Point suivant, je voudrais qu'on aborde quelques questions d'ordre général qui nous ont été un petit peu posées également et qui posent question aux Diwa. On a commencé à aborder la question des énergies renouvelables. Quelle est votre position ici localement par rapport au programme nucléaire général et comment est-ce que vous allez positionner dit sur les énergies renouvelables par exemple ou pas ? Ghislaine Ribard.
Nous, notre objectif pour la commune, hein, moi j'en reviens quand même toujours à l'intérêt communal, il faudrait commencer par isoler tous les bâtiments communaux. C'est déjà un très gros travail à faire. Ce sera une belle participation à la protection de l'environnement et puis aux économies d'énergie.
Ça, c'est un programme que vous vous êtes lancé là, oui. sur 6 ans.
Oui, oui, ça, il faut le commencer absolument. Sinon, qu'est-ce que c'était la question ?
Et développer, du coup, alors on économise l'énergie, est-ce qu'on pousse aussi le signal, c'est-à-dire en produisant ?
Eh bien, on peut devenir alors, producteur d'énergie, producteur, mais pas revendeur, je pense pas. Mais ce que dit Ghislaine, c'est primordial, c'est-à-dire que on peut changer le mode d'énergie des bâtiments municipaux. Aujourd'hui, c'est du fuel. Hein. Si c'est pour alimenter des bâtiments qui sont des passoires énergétiques, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. D'autant que je pense notamment aux réseaux de chaleur au bois, je connais un peu le sujet. Ces réseaux de chaleur sont fortement subventionnés s'ils alimentent des bâtiments isolés. Par contre, ils sont très peu subventionnés pour alimenter des passoires énergétiques.
Voilà.
Donc la première étape, et je pense qu'on va mener les deux de front à voir la négociation, parce que je sais que tout va se jouer dans des discussions avec la région, avec l'ADEME, enfin avec l'ensemble des financeurs. Leur dire, on s'engage sur un programme d'isolation sur 6 ans, on essaye de reprendre tous les bâtiments municipaux. Est-ce qu'on peut s'engager en même temps à commencer à monter un dossier de réseau de chaleur au bois sur 10 ? Sachant qu'un réseau de chaleur, il y en a au Benat, c'est un très très gros investissement, et puis ça ne se fait pas en claquant des doigts en 1 ou 2 ans. Quoi. Donc il faudra du temps, il faut rassembler tous les partenaires autour de la table, les mêmes que pour les déplacements, là, département, région, État, Europe. Voilà. Mais la première étape, il me semble, c'est quand même l'isolation des bâtiments, parce qu'aujourd'hui, on n'a que des passoires énergétiques, a dit.
Donc c'est un programme que je disais lancé pour les 6 ans. C'est à hauteur de combien là ? C'est combien de bâtiments à refaire, juste pour comme ça, pour information ? C'est tous les bâtiments qui sont dans cet état, a dit ?
Ouais. Quasi.
Quasi. Et si on refait la maison des associations, par exemple, on la refera pas.
Oui, c'est pas compté dedans.
Il faudra une bûche pour chauffer tout le bâtiment pour tout l'hiver.
Non, mais c'est-à-dire, sur les constructions déjà, Il faut bien se dire que l'intérêt pour une commune, bon, c'est d'avoir des bâtiments à très très faible consommation énergétique. C'est un intérêt écologique, mais c'est aussi un intérêt financier, puisqu'après, ça ne pèse pas dans les charges de fonctionnement du budget. Et tout ce qu'on économise en fonctionnement, on peut le mettre en investissement. Donc, sur cet aspect de l'énergie, je pense que l'objectif, il est largement au-delà de 6 ans. Il sera peut-être pour les mandats d'après, pas pour nous. Mais l'idée, c'est qu'après, on libère le budget énergie de la ville de Die et qu'il puisse servir à d'autres investissements.
Et donc ainsi, vous participez à l'obsolescence programmée de nos futures centrales, ce qui va presque à l'encontre de vos partis respectifs, hein, quand même. Hein. D'où la question. Non,
on n'est pas toujours obligé d'être d'accord avec...
Ben, c'est très bien, voilà. Non, mais c'est dit.
Donc, non,
bon, moi, mon parti, en tout cas, la section de DIE, on avait envoyé une motion à notre congrès pour dire qu'il fallait qu'on pose cette question du nucléaire. Moi, personnellement, je suis pour sortir du nucléaire, mais je vois bien... l'énorme effort qu'il faut faire, que ce soit sur les énergies renouvelables, enfin, le solaire, le bois, la géothermie, les picocentrales, il faut, pour produire ce que produisent aujourd'hui les centrales nucléaires, et la consommation des Français ne fait qu'augmenter. Alors qu'on parle depuis 10 ans d'économie d'énergie. Donc, ok, moi je veux bien, mais par exemple, quand on lance un peu trop la filière bois, ou quand elle est un peu trop utilisée, on se retrouve avec des volets aussi en face qui nous disent, voilà, stop, stop, stop. Donc, bon.
Évidemment, ça pollue également, hein. Bon.
Et en plus, le bois est une meilleure énergie utilisée dans la construction qu'en bois de chauffage.
Et dernière question d'ordre général, une problématique qui touche pas mal de Diois, le cannabis, les drogues. En tout cas, voilà, je voulais, pareil, avoir un petit peu votre position là-dessus. Vous avez cité de vous-même ce très fameux square devant le lycée Die. Bon, on sait qu'il s'y passe des choses et régulièrement, il y a des affaires. Quelle va être votre politique là-dessus? Quel est votre positionnement, même par rapport justement à vos partis, à l'État et à la nation en général, et à Die en particulier?
Je peux répondre par rapport à... notre positionnement, parce que vous avez parlé du nucléaire, du cannabis, de l'habitat léger, des trucs comme ça. Je pense nos positionnements par rapport aux politiques gouvernementales, aux programmes. On n'est pas candidat au présidentiel avec Ghislaine.
Ah bah bien sûr. Mais quand même, ça n'empêche pas d'avoir un avis.
Mais par contre, il y a une politique, quel que soit le gouvernement, qui se met en œuvre par des gouvernements. Je pense que la position de la commune, ce sera de défendre vis-à-vis de ce gouvernement, quel qu'il soit, les intérêts de la commune. Toujours, c'est ce qui guide notre action, c'est défendre les intérêts de la commune. J'ai encore appris hier soir qu'il y avait des menaces sur un train Livron-Vennes. Bon, ben moi, j'écris au ministre et je pense qu'il faut qu'on monte au créneau, on défend les intérêts de la commune et que c'était pris par un socialiste, un communiste, un UMP ou autre. Voilà, on défend les intérêts de la commune. Après, sur le cannabis, je ne vais pas répondre directement, mais tout à l'heure, vous avez parlé d'errance, cannabis, tout ça. Il y a quelque chose qui existait quand Bérgigna est arrivé, monsieur Bérgigna, c'est le CLSPD, c'est Contrat Local de Santé de Prévention de la Délinquance. Ça a été supprimé parce qu'on a estimé qu'à Die, il n'y avait pas de problème de délinquance. Mais s'il n'y avait pas de problème, c'est justement parce qu'il existait, cette chose-là. Donc cette chose-là, elle rassemble les agents de l'État, gendarmerie, la police, les animateurs, éducateurs de prévention spécialisée, des élus, les services sociaux... Enfin, tout un tas de monde de l'hôpital aussi, qui regarde la vie de la cité au quotidien et qui essaye d'identifier les problèmes. S'il y a un problème de drogue sur Die et qu'on vende de la drogue aux collégiens, moi je suis contre le fait qu'on vende de la drogue aux collégiens. Je pense que quand ils auront 25 ans, ils feront ce qu'ils veulent, mais ils se développent, ils développent leurs os, leur cerveau et tout ça, et après ils font ce qu'ils veulent. Ça veut dire qu'on peut mettre en place des actions, non pas d'aller faire de la répression, où il peut y en avoir aussi, mais des actions de prévention, d'éducation, aller voir les profs, aller discuter avec les parents. Voilà, c'est à ça que sert un CLSPD, c'est à mettre en place des actions de prévention. Voilà. Et je pense que dans le domaine de l'errance, ça existe déjà avec l'accueil de jour, avec le Centre communal d'action sociale, le CMS, il n'y a pas assez de coordination entre tous les acteurs, il pourrait y en avoir un peu plus.
Grâce à ce dispositif, donc le CLSPD.
Oui, un dispositif qui existe et qu'il faut vraiment activer et faire plus de prévention que de...
Voilà, sur l'errance, ce serait un autre dispositif, mais c'est dans le même genre, c'est la même idée. C'est-à-dire qu'on met l'ensemble des acteurs autour de la table et on n'a pas affaire à un individu délinquant, on a affaire à un problème de société. Et ce n'est pas la même façon de prendre le problème. Un problème de société, ça veut dire qu'on va peut-être faire appel à des gens qui font du théâtre ou à... ou à des éducateurs spécialisés, ou, mais on n'agit pas de la même façon en fonction des problèmes de société qui se présentent à nous. Et DIE est reliée au monde, et donc elle a des problèmes qu'elle n'avait pas avant.
Gisèle, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Non, je juste rappeler que c'est vrai que on est dans un pays où il y a des lois qu'on doit respecter. On peut pas être en dehors de tout. Donc voilà. Mais Philippe a très bien répondu.
Mais en fait, c'était par rapport à l'économie américaine qui encourage justement, ah oui, qui légalise la culture du cannabis. Et je voulais savoir si la France prenait ce chemin, peut-être avec un peu de retard comme elle le fait souvent, et est-ce qu'il y avait une politique peut-être en réflexion là-dessus sur la culture du cannabis, voire le cannabis thérapeutique par exemple.
Et la possibilité pour les communes, même petites, de pousser derrière. Ah,
ça sera la chambre d'agriculture de voir si ça l'intéresse de planter du cannabis ou pas.
Il y a des ministres qui s'en occupent.
Non mais il faudra poser la question aux agriculteurs locaux. Voilà.
On essaiera de le faire.
Après nous, pas cette question-là, mais je pense qu'on a une agriculture aussi très riche. Faudrait pas en éliminer une pour en mettre une autre. On peut peut-être encore développer certaines filières. Voilà, travaillons sur les filières locales, ce qui existe, plutôt que de partir sur des trucs pour l'instant où je n'y crois pas trop.
Et justement, là, par rapport à l'industrie agroalimentaire qui a mis le grappin un peu sur le commerce de la nature, justement, le pacte transatlantique qui est en cours d'élaboration, est-ce que vous y gardez un œil de voir s'il n'y aurait pas une mise en danger de ce qui se passe ici dans le Diois par rapport à des gros groupes comme Monsanto ou d'autres groupes de grainetiers?
On est très préservé et presque en avance aussi.
Il y a des alertes permanentes, notamment sur l'exception culturelle, donc où il y a des syndicats de cinéastes, d'écrivains qui sont montés au créneau, puisqu'il y avait une menace de suppression des subventions qui font quand même vivre le milieu du cinéma. Sur l'agriculture, il y avait, ça vient pas du pacte avec l'Amérique, là, ça vient de l'Europe, la loi REACH. Donc il y a eu aussi une montée au créneau, mais je crois qu'à chaque fois, on ne peut pas trop espérer de la commune. Il y a des acteurs, sur la loi REACH, il y avait tous les producteurs de lavande, de plantes aromatiques, etc. Ils sont organisés, ils ont une chambre d'agriculture, ils ont des syndicats. Ils montent au créneau. Je sais qu'au niveau du département, ils nous interpellent, mais il vaut quand même mieux interpeller directement les niveaux qui sont peut-être qui ont plus de poids.
Vous n'auriez pas la possibilité d'interdire, par exemple, une exploitation de tel ou tel type de, d'aliments ou de plantations sur la commune, en disant mais non, ça, comme on interdirait les pesticides dans ces services d'entretien, enfin, voilà,
Interdire les pesticides, ça on peut, dans les services d'entretien.
Évidemment, mais...
On avait proposé une fois un arrêté anti-OGM. Il y a plusieurs communes qui l'ont fait. Il y en a qui sont passées. Il y en a d'autres où ils sont retoqués systématiquement par la préfecture parce qu'ils ne sont pas légaux. La commune doit quand même respecter la loi. Ça n'empêche pas de le faire quand même parce que symboliquement, s'il y a 36 000 maires qui font une motion contre un projet de loi, il y a peu de chances de passer.
Tout ça pour parler de l'exception d'Ioise en matière de bio, hein. On arrive vers la fin de cet entretien. Est-ce que tu as encore quelques questions? Ou oui, non, peut-être?
Une globalité par rapport à l'économie de DIE et le tourisme, quel développement pensez-vous amener encore, ou s'il est suffisant, ou même justement pour ce flot de touristes chaque été, est-ce qu'il y a des structures suffisantes pour les accueillir? Et je voudrais savoir ce qu'il en est pour vous là-dessus.
Sur le tourisme, c'est vrai que on a la chance d'être dans un endroit plutôt privilégié. Concernant le tourisme, la volonté a toujours été de pouvoir l'étaler un peu plus que sur ces 2 mois d'été qui sont pour certains trop pleins, mais pas pour moi. Donc l'idée de prolonger le tourisme dans le Diois, évidemment, il faut que tout le monde y mette la main à la pâte, j'allais dire, pour accueillir des gens qui veulent venir hors saison, septembre, juin. Au niveau des logements, il y a quand même des structures d'accueil suffisantes. Disons que la mairie en elle-même ne pourra pas agir directement sur ce genre de projet. Mais... La communauté de communes Évidemment, c'est plus la partie toujours de développement touristique et économique. Voilà, je...
Moi, je dirais que j'étais l'autre jour à l'Assemblée générale de l'Association départementale du tourisme. Ce qu'on constate, c'est que les touristes sont de moins en moins consommateurs de loisirs ou de choses, mais ils sont acteurs. Et donc, il faut que l'Office du tourisme du Diwa, mais je sais qu'ils travaillent là-dessus, hein, ils proposent des parcours où ils proposent beaucoup de choses, mais les gens vont aller sur Internet, ils vont cliquer, ils veulent visiter une entreprise agricole, visiter la cave Jaillance, visiter le musée de Die, visiter. Mais il faut qu'ils puissent arriver ici avec, et avoir fait leur programme, parce qu'il n'y a plus de touristes qui restent allongés. Enfin, il y en a quelques-uns, on va rester 2 heures dans la journée allongés au bord de la Drôme. Mais le touriste, maintenant, c'est quelque chose d'actif, et je pense qu'il ne faut pas le prendre comme une manne financière qui vient, mais comme une possibilité d'avoir des échanges et des retours, de faire vivre notre économie, mais il faut qu'il y ait un retour pour eux aussi, quoi, pour qu'ils reviennent. On a des choses, on sait que sur la culture, il y a beaucoup de choses à développer. Sur le vélo, il y a beaucoup de choses, il y a de plus en plus de gens qui se promènent à vélo. La nature, enfin, on a des atouts. Et moi, je trouve que les choses avancent et... comment dire, c'est compliqué, mais... Il y a eu une autorisation de fonctionnement, parce qu'on parle souvent de la maternité, mais après je vais parler du reste, qui a été accordée jusqu'en juin 2015. Dans la discussion avec l'ARS, il a été demandé aux élus locaux de s'emparer de la question de la santé. Et c'était une des conditions pour renouveler cette autorisation. La question, elle a été abordée par l'ensemble des élus de la communauté de communes, qui ont lancé, encore la semaine passée, on a revoté le cahier des charges, un contrat local de santé, qui va aller interroger tous les acteurs de la santé, de l'hôpital, le secteur social, secteur médico-social, psychologique, tout ce qui peut concerner la santé dans le Diwa, pour faire un programme qui sera validé par l'Agence régionale de santé. Et ça appuiera le fait que les élus Diwa sont responsables vis-à-vis de l'ARS, enfin du ministère de la Santé, et ça permet de travailler sur les autres dossiers. Après, au sein de l'hôpital, il y a eu la loi Hôpital Patient Santé Territoire en 2008. Le maire est toujours président du conseil de surveillance aujourd'hui, mais ce conseil de surveillance n'a plus de pouvoir de vote. Enfin, il donne des avis. Mais à la limite, s'il donne un avis négatif sur un projet, c'est pas grave, l'ARS le fera. Le projet de l'hôpital de Die, il est conditionné au plan régional de santé, à la volonté des élus locaux, à la volonté de la direction, puisque maintenant c'est un directoire, donc la direction qui présente des propositions. Et puis, quand ça va mal, on fait appel à la population. Alors, ça sera un peu long de développer sur l'hôpital, mais je pense que ces 6 derniers mois, cette dernière année même, il y a eu plusieurs choses positives proposées par l'équipe de direction, par la commission médicale d'établissement, notamment un cours-service gériatrique, la création d'un poste de pédiatre, la création d'un poste de radiologue, la demande d'un scanner avec des travaux et des investissements très importants qui vont se faire pour installer ce scanner, une nouvelle pharmacie, un nouveau service d'imagerie. Il y a des consultations nouvelles. L'objectif, c'est d'arriver, bien sûr, à avoir le plus de consultations possible au service de la population, sachant qu'on est dans une période où budgétairement, on ne va pas trouver des millions, et où, du point de vue de la démographie médicale, il est difficile de faire venir beaucoup, beaucoup de spécialistes. Mais je pense que le ministère a bien compris qu'un cardiologue qui descend à Die faire 12 consultations, c'est 12 voyages d'économiser, c'est autant d'économies pour tout le monde. Donc il y a des cardiologues, il y a des urologues, il y a des échographies, il y a des ophtalmos. Il y en a peut-être pas assez, il faut le développer, mais c'est vraiment un travail de fourmi. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans un bon état d'esprit avec l'ARS, avec la direction de l'hôpital et l'ensemble du conseil d'administration. Et les élus aussi.
Ghislaine Ribard, Philippe Levenberg, on arrive au terme de cet entretien, et je l'ai déjà dit d'ailleurs. Est-ce qu'on pourrait... Ben, on va vous laisser chacun le mot de la fin.
Allez. Petite question subsidiaire. Qu'est-ce qui vous procurerait du plaisir, voire de l'ivresse?
Allez, Philippe, qu'est-ce qui vous procure de l'ivresse?
Vraiment très plaisir, c'est que je croise des gens sur le marché qui aient lu notre programme, qui l'aient lu entièrement et qui aient envie d'en débattre, d'en discuter et de parler des questions de fond et qui nous apportent des choses ou qui nous critiquent. Voilà. Aujourd'hui, J'ai envie de ça.
Oui, c'est vrai qu'on est dans une période quand même préélectorale. Donc, ce qui fait vraiment plaisir, c'est le débat, quoi. C'est que les gens se réapproprient un peu la vie politique et la vie de leur propre commune et qui est du débat autour des projets à venir pour Die.
Ce débat fonctionne-t-il d'ailleurs ?
Oui.
Pour vous ? Dans le cadre de cette campagne, on entend une pointe de gens. Les gens ne sont pas là encore, peut-être.
Non, ça commence. Nous, on a des bonnes discussions sur le marché. On a travaillé depuis 3 mois avec un groupe important où on a eu des bons débats pour arriver à élaborer ce projet. Mais ça reste encore un petit groupe, je dirais. L'important, c'est que ça débatte sur la place publique. Mais pour l'instant, je dirais les dés sont un peu pipés puisqu'il y a 2 candidats déclarés. Et il risque d'y en avoir 3 ou 4, et on attend de savoir ce qu'ils nous proposent pour qu'il puisse y avoir un débat contradictoire, parce que sinon c'est pas très intéressant.
Bon, il y en a déjà 2, et vous êtes sensiblement différents l'un et l'autre, donc quand même sur certains points. Nous, en tout cas, on a pu, sur les questions qui vous ont été posées aujourd'hui, noter des différences. On va terminer donc cet entretien, Ghislaine Ribard, Philippe Levenberg, en vous laissant le mot de la fin, le mot de votre slogan, de votre campagne, peu importe ce que vous voulez, la phrase même, hein, c'est pas que le mot. Allez.
Oh là là, là, je suis pris un peu de court.
Ah, sur l'ivresse, vous aviez déjà presque répondu ce mot de la fin, mais... Bon, bah, Philippe...
Là, vous êtes dur. Hein.
Comment nous quitter, par exemple ?
On a beaucoup écrit. Alors, j'invite les gens à aller voir notre site, unegauchecitoyennepourdie.jimdo.com. Tape une gauche citoyenne pour Die sur les barres de recherche. On trouve... Moi, je sais bien écrire... étaler les idées sur la table, pas faire la synthèse, mais rendre compte de tout ce qui a été discuté, même s'il y a des oublis, des fois il faut en rajouter. Et on a un copain qui nous a mis les slogans solidaire, efficace, dynamique. Alors solidaire parce que c'est les valeurs de la gauche, la solidarité, c'est important, quel que soit son âge, sa couleur, etc. On est dans un esprit de société solidaire. Efficace, c'est la méthode qu'on propose de participation des citoyens, de mise en réseau, de travailler avec les autres, d'ouverture. Et dynamique, je lui dis ça, tout le monde peut le dire. Il me dit, oui, mais bon, vous êtes les plus jeunes. Donc, voilà.
Ben moi, pour dire 3 mots qui me plaisent bien, ce serait rassembler, écouter et agir pour la ville de Die.
Merci à tous les deux. Merci Yves.
Merci.
Eh bien, merci à vous de nous avoir reçus.
Merci, merci à tous.